Il est 7h.
Je suis assez partagée parce que venir au lycée, c'est prendre le risque de tomber malade. Mais rester à la maison, c'est aussi prendre le risque de décrocher au niveau scolaire.
Des contaminations galopantes et des écoles que l'exécutif se refuse à fermer. À la clé, des élèves partagés entre la préservation de leur santé et le suivi de leurs cours. L'heure du jugement dans le procès du médiator et l'attente d'une sanction exemplaire contre les laboratoires Servier. Le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision à partir de 10h. Dans ce journal aussi, le projet de loi climat et résilience à l'Assemblée, les ravages de la séparation des parents sur les enfants et des Bleus victorieux hier pour leur deuxième match. Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, avant de retrouver Virginie Fulpin et son édito sport.
Le retour de la Formule 1, la nouvelle saison a commencé hier et la F1 fait un retour tonitruant dans le cœur des fans de sport.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire, c'est avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h sur Europe 1, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est un médicament qui a continué à être vendu, à être remboursé malgré des alertes répétées sur sa dangerosité. Plusieurs milliers de victimes plus tard. L'épilogue aujourd'hui de l'affaire du médiator.
À 10h ce matin, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement. Il doit être exemplaire pour les parties civiles, représentées notamment par maître Jean-Christophe Coubris.
Jamais procès n'a été aussi long, jamais autant de parties civiles. Tout est assez exceptionnel. Ce qui m'a le plus étonné, mais agréablement étonné, c'est le temps qu'on a accordé à chaque victime. Et cela, c'est très rare, ça permet de vraiment apprécier la situation. J'ai la conviction que les laboratoires Servier ne pourront pas échapper à une condamnation. Pour que ce jugement ait un sens et que cela puisse ne plus jamais exister, c'est que la condamnation financière soit importante, qui leur permettront d'y réfléchir à deux fois, de commercialiser un médicament dont ils connaissaient la toxicité. Sans le retirer du marché, ont poursuivi à engranger du chiffre d'affaires.
Maître Coubris avec Gladys Laffitte pour Europe 1 contre les laboratoires Servier, poursuivi notamment pour escroquerie. Une amende d'environ 10 millions d'euros avait été requise en juin dernier. 200 000 euros demandés à l'agence du médicament pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du médiator.
Le coronavirus sera-t-il aussi le maître des horloges dans les écoles? Alors que l'exécutif se refuse toujours à leur fermeture, le nouveau protocole sanitaire pourrait bien, dans les faits, priver de classe de nombreux élèves.
Dans les 19 départements partiellement reconfinés, la consigne, c'est désormais classe fermée dès le premier cas de Covid. Une doctrine qui interroge dans les rangs des parents comme des élèves. Illustration au lycée Eugène Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis. 22 classes fermées ce matin. Reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1.
Devant les grilles blanches du lycée, loin de leur classe de philosophie, Maïssa et Nerline sont confrontées à un choix cornélien.
Je suis assez partagée parce que venir au lycée, c'est prendre le risque de tomber malade. Mais rester à la maison, c'est aussi prendre le risque de décrocher au niveau scolaire. Ce qui va nous compliquer pour plus tard.
Sachant que tous les profs ne font pas des cours en distanciel. Et du coup, on perd beaucoup, beaucoup de cours.
Difficile de trancher entre la santé et les études.
On balance entre les deux.
Zakia Belmokhtar ne veut pas avoir à choisir. Sa fille est en seconde au lycée Eugène Delacroix.
Pour ne pas être contaminée, effectivement, on ferme l'établissement. Mais dans ce cas-là, un vrai distanciel avec un suivi des élèves. Les élèves qui sont en situation de décrochage, qu'on puisse les repérer, les entourer, les rappeler, leur proposer des choses pour qu'ils puissent revenir à l'école d'une façon ou d'une autre.
Tout ce qui ne s'est pas fait depuis un an, dit-elle. Conséquence, la moyenne générale de la plupart des élèves du lycée a dégringolé, confie un prof syndiqué.
Situation sous tension aussi toujours dans les hôpitaux. Le pic de la deuxième vague est quasiment atteint en réanimation. Après avoir mis en garde hier contre un probable tri prochain des patients, les directeurs médicaux de crise des hôpitaux de Paris se sont entretenus avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui souhaite toujours étudier d'abord l'effet des mesures mises en place avant tout éventuel durcissement.
On les appelle les Covid longs. Ces patients qui, plusieurs mois après avoir contracté le virus, souffrent toujours de diverses pathologies. Si leurs cas font l'objet de tant d'études, ils bénéficient aussi désormais un peu partout en France de prise en charge spécifique, comme ici dans les Pyrénées-Orientales, à la clinique du souffle d'Auxéja, où s'est rendu Benjamin Péter pour Europe 1.
Les premiers cours, j'arrivais même pas à marcher. En fait, j'avais l'impression d'être un bébé, qu'il me fallait réapprendre à marcher, réapprendre à respirer.
Le Covid, Martine l'a contracté en mars 2020. Depuis, elle ressent toujours des brûlures dans les membres, une fatigue intense et ce qu'elle décrit comme un brouillard dans la tête. Alors depuis 5 semaines, elle est hospitalisée à la clinique du souffle, située à 1200 mètres d'altitude. Elle suit leur programme pluridisciplinaire et notamment les cours d'activité physique adaptée d'Antonin Vernet.
Les patients vont être vus par des diététiciens, par des psychologues, des kinés. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de répondre à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. rencontrer. On a vu un monsieur qui est arrivé en début de séjour avec de l'oxygène en déplacement. À la fin du séjour, il n'avait plus l'oxygène et il arrivait à faire une randonnée de 1h30 sans grande difficulté. C'est assez spectaculaire.
Pour Martine aussi, les progrès sont énormes, mais pour elle qui faisait du sport 4 à 5 fois par semaine, de la danse, l'arrêt a été brutal. Les psychologues l'ont aidé à accepter son état.
Je voulais être comme avant et ça, ils m'ont fait comprendre que c'était plus possible. Je vais en haut de la montagne, mais j'y vais tranquillement. J'y vais plus en courant.
Et comme elle, une vingtaine de patients ont déjà bénéficié de ses séjours depuis l'automne ici à la clinique du souffle et ils s'attendent à recevoir de nombreuses demandes dans les prochains mois pour prendre en charge ces patients post-Covid. À Auxéja, Benjamin Péter, Europe 1.
Elles sont les grandes oubliées du plan de relance. Les femmes, pas suffisamment prises en compte, selon une étude de la Fondation des femmes qui pointe notamment le soutien massif à des secteurs fortement masculinisés.
7h06 sur Europe 1. Plus de 7000 amendements et la perspective de 3 semaines de discussions agitées à l'Assemblée. Le projet de loi climat et résilience examiné à partir d'aujourd'hui par les députés.
Développement de la vente en vrac, réglementation des espaces publicitaires, création d'écotaxes régionales ou rénovation thermique des logements. La majorité défend un texte équilibré. Les écologistes, eux, le jugent insuffisant. Ils l'ont dit hier dans la rue à l'occasion d'une nouvelle marche pour le climat partout dans le pays, entre 44 000 et 110 000 personnes. Le président de Greenpeace, Jean-François Julliard, était dans le cortège parisien.
L'idée est de peser effectivement sur le travail des parlementaires et d'essayer de leur faire comprendre que c'est un peu la dernière chance pour faire en sorte que ce texte, ce projet de loi climat et résilience, soit réellement à la hauteur de l'ambition qu'il affiche. Ce texte, il est là pour faire en sorte que la France retrouve la trajectoire de l'accord de Paris et s'achemine vers une réduction de au moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On a le sentiment que le gouvernement, finalement, entend cette pression sociétale autour des sujets climat-environnement, donc il est obligé d'avancer dans cette direction-là. Mais il s'arrête avant d'avoir pris les bonnes mesures.
Jean-François Julliard avec Damien Mestre pour Europe 1. Après une semaine de blocage, le trafic maritime va-t-il pouvoir reprendre dans le canal de Suez? En tout cas, les opérations sur place semblent porter leurs fruits. Le porte-conteneur qui barrait la route a commencé ce matin à bouger.
Le commerce mondial et plusieurs grandes marques occidentales prises en étau en Chine entre éthique et profit. Plusieurs grands groupes font en effet l'objet d'une campagne de boycott pour avoir choisi de ne plus utiliser le coton issu d'une province où des musulmans ouïghours sont soumis au travail forcé.
De pression organisée des consommateurs et des magasins qui se vident à Pékin. Reportage de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Les magasins sont tous ouverts en Chine et le quartier commerçant de Sanlitun fait le plein ce week-end. Mais certaines enseignes sont tristement désertes. C'est le cas de la marque suédoise H&M boycottée pour avoir dénoncé le travail forcé au Xinjiang, une attitude qui hérisse ses passants.
Ce qu'a fait H&M est vraiment une erreur. Ce sont des mensonges et ça pose des problèmes. Et puis surtout, cela blesse le sentiment national du peuple chinois.
Moi et mes amis, on est tous d'accord. Si ces marques nous boycottent, alors nous allons les boycotter en retour.
Le gouvernement affirme que ce boycott n'est pas téléguidé par le Parti communiste. Roi Shuning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les Chinois ont tout à fait le droit d'exprimer leurs sentiments. Ils veulent défendre l'honneur et la dignité du pays. Ce n'est pas du nationalisme.
Par crainte d'être prise pour cible à leur tour, certaines marques étrangères ont même publié des communiqués en Chine pour affirmer utiliser du coton du Xinjiang, quitte à se faire boycotter en retour par les pays occidentaux. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Ce qui va suivre pourrait bien vous faire tendre l'oreille. Et si la vie de couple était aussi un enjeu de politique publique? C'est ce que suggère en tout cas une étude réalisée par le think tank Vers le Haut, dédiée aux jeunes et à l'éducation.
Écoutez bien, son dernier rapport évalue l'efficacité de la prévention sur les ruptures conjugales et leurs conséquences sur les enfants et les parents. La conclusion, c'est que soutenir les couples est aussi une question de finances publiques. Pour Europe 1, Angèle Châtelier.
Les enfants qui ont des parents séparés ont 20% de chances en moins d'obtenir un diplôme à l'université. Et ils sont en moins bonne santé physique et émotionnelle. Ce que constate Thierry Véron-Lacroix, conseiller conjugal.
Lors d'une séparation, j'ai bien vu combien ils entraient dans une phase d'insécurité affective en se disant « papa aimait maman, maman aimait papa, ils ne s'aiment plus aujourd'hui, est-ce que demain c'est moi qu'ils ne vont plus aimer ?» C'est parfois une très bonne chose que de se faire aider.
73% des couples interrogés qui ont consulté ont évité une séparation. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Ces consultations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Camille et son mari en ont eu pour 100 € par mois pendant 3 ans.
C'est un vrai budget, on aurait pu se faire un beau voyage, mais à la fin du voyage on en serait rentré, on aurait divorcé. Là non, les enfants étaient un peu nerveux. Déjà, quand nous on était nerveux, eux l'étaient également. Ça a apporté de la sérénité, du calme à la maison, qui était nécessaire.
Et ça a été bénéfique pour les finances publiques. Un couple aux revenus modestes qui se sépare touche environ 10 000 € par an de prestations sociales, comme les allocations logement.
Tout n'était pas parfait, mais cette fois, au moins, ils l'ont emporté. Les Bleus, victorieux hier au Kazakhstan pour leur deuxième match de qualification au Mondial 2022.
Une victoire 2-0 et quelques motifs de satisfaction. Cyril de la Morinerie, vous les avez suivis, hein, les Bleus à Nur-Sultan pour Europe 1.
Oui, la grande satisfaction, c'est Ousmane Dembélé, buteur et à l'origine de nombreuses occasions. Après 2 ans et demi d'absence, le virevoltant attaquant revient au meilleur moment à moins de 3 mois de l'Euro. Mais tout n'était pas parfait pour le sélectionneur Didier Deschamps. D'abord, Kylian Mbappé, malgré ses accélérations tranchantes, a raté son pénalty. Ensuite, ses coéquipiers ont également manqué de réalisme.
J'ai juste un petit regret, c'est de ne pas avoir eu un peu plus d'efficacité en deuxième mi-temps pour corser le score, mais... On a été appliqué du début à la fin, donc on va apprécier, bien récupérer, puis parce que ça s'enchaîne très vite et on a un petit déplacement sympathique.
Ce déplacement sympathique, c'est pour aller en Bosnie. Encore 4 heures d'avion pour regagner le continent européen, et cela dès aujourd'hui. À Sarajevo, plus de décalage horaire, plus de neige, mais des températures positives. L'objectif, lui, ne change pas, gagner pour se rapprocher d'une qualification pour la Coupe du Monde.
Voilà, et ce match contre la Bosnie, ce sera mercredi.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous l'avez entendu dans le journal à l'instant, jugement attendu aujourd'hui dans le procès du Mediator. 9 mois, 517 heures d'audience, 6500 parties civiles et 400 avocats. On dit que la lecture du jugement pourrait prendre 3 heures. Aux origines de l'affaire, une lanceuse d'alerte, Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest. Qu'a changé cette affaire? Qu'attend-elle aujourd'hui de ce jugement? Irène Frachon est l'invitée du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et les États-Unis qui en sont à leur troisième plan pour relancer leur économie, et nous? Eh bien nous, on attend toujours notre plan européen de 750 milliards d'euros.
D'euros, on est encore en euros. Ce sera juste avant le regard international de Vincent Hervouette dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1. Très bon réveil. 7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors que les États-Unis viennent d'adopter leur troisième plan de relance, l'Europe attend toujours le sien.
Oui, vous savez, là-bas, il y a tout un débat pour se demander s'ils n'en font pas trop pour relancer leur économie, si ces plans massifs ne vont pas provoquer de l'inflation, même pourquoi pas une forme de surchauffe. Eh bien nous, on n'est pas prêt d'avoir ce genre de débat en Europe, car notre plan de relance de 750 milliards, on l'attend toujours. Il a été validé, il faut le rappeler, le 21 juillet dernier. Mais on n'en a pas encore vu un centime, car les 27 États membres, plus un certain nombre de parlements locaux, doivent le voter pour autoriser la Commission à emprunter sur les marchés financiers. Ça fait donc une quarantaine de votes qu'on attend dans les 27, vous imaginez la lourdeur. Or, pour le moment, seuls quelques pays comme la France ou le Portugal ont donné leur feu vert définitif.
Validé le 21 juillet dernier, voilà. Vous avez bien entendu, nous sommes le 29 mars. Et on se demande maintenant si le premier pays contributeur de ce plan ne va pas décréter un feu rouge.
Alors oui, en plus, parce que tout cet échafaudage est suspendu à une décision de la Cour constitutionnelle allemande. En fin de semaine dernière, elle a interdit au président allemand de promulguer la loi approuvant le plan de relance. Elle avait été saisie en référé par un groupe d'extrême droite qui ne supporte pas qu'un seul euro des contribuables allemands puisse aller à la relance des pays voisins. Les deux chambres du Parlement allemand avaient pourtant donné leur feu vert. On doit donc maintenant attendre que cette même Cour constitutionnelle se prononce sur le fond. Alors évidemment, c'est un revers politique pour Angela Merkel, mais c'est surtout inquiétant parce que tout retard est extrêmement préjudiciable. La Banque Centrale Européenne n'arrête pas de le dire, les économies européennes, la France, l'Italie, l'Espagne, toutes ont absolument besoin de ces fonds pour faire repartir la machine et relancer l'emploi.
Il y avait aussi une notion d'urgence derrière ce plan du 21 juillet dernier. Pendant ce temps, vous le disiez, l'écart qui se creuse avec les États-Unis.
Ben oui, parce que les États-Unis quand même ont mis sur la table près d'un tiers du PIB pour doper l'économie. Le pari de Joe Biden, c'est de retrouver début 2022 le niveau de richesse qui aurait été atteint sans la pandémie. Il y a derrière ça aussi un calcul stratégique. Pas question de se laisser distancer en quoi que ce soit par la Chine sur les marchés mondiaux. Donc on relance tous azimuts. La Chine est repartie sur les chapeaux de roue. Les États-Unis relancent massivement. Et nous, on attend le vote de nos voisins et le verdict de juge constitutionnel allemand en espérant ne pas être définitivement distancé. Ça n'est pas gagné, vous l'avez compris.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15. Et c'est l'heure de retrouver Vincent Hervouette pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Des djihadistes prennent le contrôle d'une ville au nord du Mozambique, provoquant la fuite éperdue de milliers d'habitants.
Oui, 200 combattants ont mis en 1 millier de soldats en déroute. Après 3 jours de bataille, ils ont conquis la ville. Elle serait à moitié détruite. Des cadavres traînent dans les rues. Cette ville s'appelle Palma. La région au bord de l'océan Indien, Cabo Delgado, sont des noms de cartes postales. Mais c'est là que sont apparus les Chebabs, il y a 4 ans, des enragés d'un genre nouveau, une secte qui ne veut connaître que le Coran et méprise la tradition. Pour la pratique, ils font comme l'État islamique, ils rasent les villages, ils décapitent des enfants. La terreur a fait fuir près de 700 000 habitants. Jusqu'à présent, on en a peu parlé, parce qu'on connaît mal le Mozambique, et puis, et encore plus, le nord du pays, où il n'y a pas grand monde et presque pas d'État.
Alors, il n'y a pas d'État, hein, mais ça sent le gaz.
Oui, du gaz liquéfié, un gisement gigantesque. Total y investit 20 milliards de dollars. L'exploitation doit commencer en 2024. Le Mozambique, pays le plus pauvre de l'Afrique australe, est censé devenir le plus riche, un émirat gazier. Les Français ne sont pas seuls sur place. Il y a Eni, Exxon, Aramco, les Canadiens, les Chinois. En fait, le monde entier a les yeux fixés sur Afungi. C'est le centre d'exploitation gazier. C'est à 10 km de Palma, un fort Apache sur une presqu'île, une sorte de camp retranché. Total avait suspendu le chantier il y a 3 mois. La firme exigeait une zone sécurisée de 25 km. Les soldats ont débarqué. Et mercredi, justement, Total a annoncé la reprise de ses activités à l'heure précise où 3 colonnes de djihadistes attaquaient la ville. Décidément, en ce moment, Total n'a pas de chance avec les militaires. Les soldats du Mozambique sont décevants et les généraux de Birmanie aussi.
Si son armée est débordée, est-ce que le Mozambique appelle à l'aide ?
Alors, il y répugne. Il a accepté du bout des doigts la main tendue par les Américains. Il y a 12 de bérets verts seulement qui fait de la formation. Le Portugal, l'ancienne puissance coloniale, donne aussi un tout petit coup de main. Le Mozambique préfère les compagnies militaires privées. Les Russes du groupe Wagner ont fait un tour et des Sud-Africains aussi. Le Mozambique se méfie des grandes puissances. Il leur a servi de champ de bataille pendant la guerre froide. 1 million de morts. Il a vu ce qui s'était passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie et il préfère désormais payer des mercenaires qu'il peut renvoyer du jour au lendemain.
Merci Vincent Hervouet. Et ce dernier point, voilà, il faut qu'il attire aussi notre attention, des pays qui préfèrent aujourd'hui se payer des mercenaires qu'une aide internationale militaire. Merci Vincent Hervouet. Hein. Le regard international, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. 7h18, dans quelques toutes petites secondes, l'édito sport de Virginie Fulpin. Juste avant votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern, bien sûr. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi quand 2 personnes s'insultent, on dit donner des noms d'oiseaux ? Oh, que tout le monde se rassure, ça n'arrive jamais, Europe 1, nous sommes entre gens civilisés. Mais d'où ça vient ces noms d'oiseaux ? Réponse dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1, 7h18. 7h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 hier à Bahreïn. Vous étiez nombreux à attendre cette nouvelle saison. La Formule 1 qui connaît, on peut le dire, un net regain de popularité. Pour vous Virginie, c'est surtout parce que ce sport s'est à nouveau raconter des histoires.
Depuis quand le football est-il devenu l'apéritif devant lequel on attend avec impatience la Formule 1 ? Hier, devant le match des Bleus, je me suis surprise à me dire « vivement la fin qu'on passe au Grand Prix hein. ». Et je ne suis pas la seule, il y a un vrai regain d'intérêt, c'est vrai, pour la F1. Dans le sport, au-delà des caractéristiques techniques et tactiques qui intéressent surtout les aficionados, il faut bien le dire, ce qui compte, c'est la dramaturgie et les histoires qui le rendent humain. Et là, on est servi avec la Formule 1. On l'a vu dès cette première course, il y a une vraie rivalité cette année entre Lewis Hamilton, le pilote Mercedes qui défend son titre, et Max Verstappen, le jeune pilote Red Bull aux dents longues. Et ce genre de bataille des chefs, ces 15 tours haletants où tout peut arriver, c'est ce qui met l'eau à la bouche pour cette saison. Les grandes heures de la Formule 1 ne sont faites que de ça, de rivalités exacerbées. Lewis Hamilton est sorti vainqueur, une fois de plus, pour empocher la 95e victoire de sa carrière. Lui qui veut obtenir son 8e titre de champion du monde, ce que personne n'a réussi avant lui. Ok, c'est bien les chiffres, mais on en a vu d'autres. Ce qui est intéressant chez Hamilton, c'est qu'il laisse apparaître l'homme derrière le casque. Celui qui lutte contre le racisme, celui qui se bat pour l'environnement. On aime ou on déteste, on le croit sincère ou on se dit que c'est de la com. Qu'importe finalement, ce qui compte, c'est que c'est un vrai personnage capable d'attirer des néophytes vers la Formule 1.
Et puis Virginie, il y a eu ça aussi.
Je suis l'homme qui a échappé aux flammes.
On doit oublier les enjeux et se focaliser sur un seul objectif.
Son et lumière. Netflix a aussi beaucoup aidé la Formule 1 à attirer un nouveau public.
Ouais, il y a un savoir-faire. Bien sûr, la série documentaire Formula 1 a joué un rôle déterminant, justement parce qu'elle raconte des histoires, qu'elle nous emmène au cœur du fonctionnement des écuries, dans l'intimité des pilotes. Et ça, c'est primordial aujourd'hui pour séduire un public plus jeune, notamment. La Formule 1 a su comprendre qu'elle devait donner un peu plus pour attirer le chaland. Les chronos et les moteurs qui vrombissent, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. On a besoin de l'envers du décor pour apprécier l'endroit. Regardez, Canal Plus a aussi proposé un documentaire sur Lewis Hamilton hier soir. Le sport, ce sont des histoires qu'on raconte, pas une compilation de records. La F1 l'a compris et ça paie. Je crois que c'est le symbole d'une nouvelle façon de consommer le sport aussi. Et la Formule 1 a su négocier ce virage. C'est plus prudent à cette vitesse.
Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est tous les matins sur Europe 1, c'est à 7h20. 7h24, très bon réveil à toutes et à tous. On retrouve Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourquoi quand une personne insulte une autre personne, on dit qu'elle donne des noms d'oiseaux? Pour mieux se voler dans les plumes, me direz-vous? Eh bien, vous n'avez peut-être pas tort.
Alors, personnellement, je n'ai encore rien dit, hein, mais c'est vrai que se donner des noms d'oiseaux, on n'utilise plus trop cette expression, on se croirait un peu dans un album de Tintin.
Ben justement, je vous propose un voyage dans les insultes volatiles. Et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Pour une insulte misogyne, pour désigner une femme idiote, on parle de bécasse. Si cette dernière est un peu ronde et naïve, on dit une bécassine, du nom du célèbre personnage né en 1905. Pour une personne lâche, on dit une poule mouillée, une expression qui entre dans le dictionnaire de l'Académie française dès 1694. Autrefois, on disait poule l'été également. Quand on est lâche et qu'on ne veut pas voir la vérité en face, on fait également la politique de l'autruche.
Ah oui, c'est vrai.
Une personne sans foi ni loi est un vautour, un rapace même. Pour une personne étourdie, on parle d'une tête de linotte. La linotte a une boîte crânienne toute petite, donc un tout petit cerveau. Cet oiseau est réputé changeant, tout comme l'étourneau, qui a d'ailleurs la même étymologie que étourdi.
Ah oui.
Voilà, Mathieu, si vous traitez un collaborateur de buse, tout le monde aura compris. Les femmes vendant leur charme ont longtemps été des grues. Et d'ailleurs, en attendant le chaland, elles faisaient le pied de grue. Vous comprenez mieux pourquoi on dit donner des noms d'oiseaux. Allez, donnons le mot de la fin à Jacques Deval, dramaturge français, né à la fin du 19e siècle. Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages.
On vous retrouve tout à l'heure à 16h avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit l'inventeur Joseph-Marie Jacquard qui a inventé la machine à tisser mécanique, la funambule Maria Spelterini, première femme à avoir traversé les chutes du Niagara, et la mannequin Émilie Ratajkowski. Leur point commun, leur vie ne tient qu'à un fil, à une ficelle même pour cette dernière, celle de son string.
À tout à l'heure, 16h. 7h26, pas de transition. Laurent Cabrol dans un instant pour la météo. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Le grand beau temps et des températures vraiment presque estivales, 26-27 degrés à Dax et Bayonne, 24 à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Hoche cet après-midi, 23 à Nevers, à Limoges, 22 à Nantes, à Lyon, Paris, à Caen, Toulouse, Rennes, Nancy, Colmar, Épinal et Merle, ça c'est mon nom d'oiseau, ça c'est en temps des Garonnes, Merle, 21 degrés à Merle, 20 degrés à Lille, 19 à Carcassonne, 18 à Marseille et 17 degrés à Nice, en sachant qu'actuellement il fait quand même bien froid dans certaines contrées, notamment sur la Sarthe, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Cher et la Nièvre, où nous avons des gelées, je dis bien des gelées, et dans la journée ça va bien grimper tout ça. Les températures ce matin à Lyon et Paris entre 5 et 7.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
En contrôlant mes comptes, je me suis aperçu que j'avais eu un prélèvement de 95 euros sur mon compte qui ne correspondait à aucune commande de quoi que ce soit.
Des produits non livrés, des commandes en retard ou des refus de remboursement. Avec le confinement, la vente en ligne a explosé, les litiges aussi. Dans ce journal, le gouvernement sous la pression des soignants, il faut agir tout de suite pour sauver les hôpitaux au bord de la rupture. Après pétrole contre nourriture en Irak, pétrole contre vaccin au Venezuela, l'appel au secours du président Maduro. Et puis aux États-Unis, le début sous haute tension des audiences au procès du policier accusé de la mort de George Floyd.
Juste après ce journal, la touche âme, c'est Bertrand Chameroy, Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest. C'est elle qui a lancé l'alerte dans l'affaire du Mediator dont on attend le jugement aujourd'hui. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique de Nicolas Bétou.
À chaque semaine son défi face au Covid. Cette fois-ci, Emmanuel Macron réussira-t-il son pari? Garder les écoles ouvertes.
Et puis Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Entre magasins fermés et limitations de déplacement, les différents confinements nous ont poussés à acheter davantage sur Internet. 1,8 milliard de commandes en France l'année dernière. Année record pour la vente en ligne, année record aussi pour les litiges. Élise Dangean.
Raphaël Bartholomé est formel, il n'a jamais vu ça. Lui qui dirige le service juridique de l'association de consommateurs UFC Que Choisir peut même dire quels sont les litiges les plus fréquents.
Alors ce sont des signalements principalement sur des problématiques de livraison, de défaut de livraison, livraison d'objets abîmés ou la livraison fantôme, celle qui n'a jamais eu lieu.
Cette hausse des plaintes et signalements dans le secteur du commerce en ligne est confirmée par la DGCCRF, la répression des fraudes, et le développement du e-commerce a aussi inspiré de nouvelles arnaques comme celle subie par Philippe. L'an dernier, après avoir acheté des brosses à dents sur un célèbre site web, il reçoit un SMS l'invitant à régler les frais de port. Il entre ainsi ses codes de carte bleue et ça va lui coûter cher.
À peu près un mois plus tard, en contrôlant mes comptes, je me suis aperçu que j'avais eu un prélèvement de 95 euros sur mon compte, qui ne correspondait à aucune commande de quoi que ce soit.
Ce retraité novice en la matière a donc dû faire opposition et demander un remboursement à sa banque. Cette dernière a accepté, mais elle a refusé d'investiguer plus longuement. Ouvrez les guillemets, pour une si petite somme.
Une petite somme, certes, pour le système bancaire, mais 95 euros la brosse à dents, c'est pas donné
ça
non
ça
plus pour
beaucoup,
ce
oui.
Monsieur, évidemment. 7h31, face à la troisième vague de l'épidémie, la pression s'accentue sur le gouvernement et de plus en plus de voix plaide pour un reconfinement strict.
Mais malgré les mesures de semi-confinement déjà en place dans 19 départements, les contaminations continuent d'augmenter et cela inquiète les professionnels de santé. Une quarantaine de médecins d'Île-de-France ont signé hier une tribune dans le journal du dimanche. Ils réclament des mesures immédiates au gouvernement. Et faute de quoi, Victor Dolande, la situation sera irrattrapable.
Oui, avec plus de 33 000 nouveaux cas chaque jour, les contaminations ont augmenté de 17% en une semaine, une accélération qui touche presque toutes les régions et dans 5 départements d'Île-de-France. Le taux d'incidence dépasse même le niveau observé lors de la deuxième vague. Les entrées en réanimation se multiplient avec des patients de plus en plus jeunes. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il y a urgence.
Très clairement, si demain ou après-demain, il n'y a pas de diminution de l'incidence des nouveaux cas, notamment dans les régions les plus touchées, alors ça veut dire que les mesures n'ont pas d'impact, soit parce qu'elles ne sont pas comprises, soit parce qu'elles ne sont pas efficaces. Il faudra donc prendre des mesures plus dures sur un plan sanitaire, si on veut libérer des places d'hospitalisation, et libérer aussi la conscience des médecins, qui est un devoir éthique de soigner les malades, de devoir faire un tri inhérent, parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux.
Et la grande crainte des soignants, c'est que la situation n'est pas la même que l'année dernière. Il y a des malades non-Covid à prendre en charge, des renforts de personnel impossible dans les régions les plus touchées. Des inquiétudes résumées ainsi par un médecin réanimateur d'Île-de-France. Si on n'atteint pas le pic de la troisième vague dans les 10 prochains jours, l'hôpital va être broyé.
La pandémie à l'étranger. Au Venezuela, écoutez bien, le président Nicolas Maduro propose d'échanger du pétrole contre des vaccins.
Et cela même alors que le pays est frappé par des sanctions économiques internationales qui compliquent la commercialisation de son or noir. Écoutez Nicolas Maduro.
Le Venezuela a des pétroliers. Il a des clients prêts à nous acheter du pétrole. Il consacrerait une partie de sa production pour obtenir les vaccins dont il a besoin. Du pétrole contre des vaccins.
Pétrole contre vaccin, la formule rappelle le programme des Nations Unies. Pétrole contre nourriture dont avait bénéficié l'Irak il y a plus de 30 ans après l'invasion du Koweït. Aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. La sélection du jury est terminée et les audiences peuvent enfin débuter dans un contexte tendu. L'ancien policier est accusé du meurtre de George Floyd en mai dernier.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors il faut rappeler que Derek Chauvin comparaît libre à son procès.
Oui, l'ex-officier a été libéré sous caution en octobre contre $1 million. Il a assisté à la minutieuse sélection du jury. On l'a vu tous les jours pendant 2 semaines, silencieux et prenant quelques notes aux côtés de son avocat. Derek Chauvin risque 40 ans de prison et il sera jugé par 12 personnes, dont 4 afro-américains et 2 métis. Et c'est à souligner d'abord parce que ce n'est pas représentatif de la population de Minneapolis, une ville majoritairement blanche. Ensuite, parce que c'est la légitimité du futur verdict qui est en jeu. De nombreux militants avaient fait entendre leur voix pour que le jury soit suffisamment diversifié. En tout cas, la recherche d'un jury impartial a été un vrai défi. Certaines personnes tirées au sort ont demandé à ne pas être sélectionnées par crainte pour leur sécurité. D'autres ont été écartées d'office après avoir annoncé s'être déjà fait une opinion sur cette affaire. La quasi-totalité des jurés ont admis avoir vu au moins en partie la vidéo dans laquelle Derek Chauvin appuie son genou sur la nuque de George Floyd. 8 minutes et 46 secondes qui seront au cœur de ce procès.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis dans l'État de New York, la légalisation du cannabis récréatif est en bonne voie. Gouverneurs et parlementaires se sont mis d'accord sur un projet de loi qui autorise l'achat et la consommation pour les personnes majeures.
Le football à présent et la France qui s'est imposée au Kazakhstan hier 2-0.
Et après le match, un journaliste kazakh s'est permis de poser une question à Didier Deschamps, non pas sur la rencontre, mais sur Karim Benzema, sujet sensible, on le sait. Mais le sélectionneur des Bleus l'a pris avec le sourire.
Est-ce que vous allez...
Non. Mais
même ici. Allez, on restera sur les autres questions. Oh oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question. Ok, thank you.
Mais toujours pas de réponse.
Non, toujours thank pas, you. Même au Kazakh. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
10 millions d'euros requis contre les laboratoires Servier. Irène Frachon, pneumologue au centre hospitalier au CHU de Brest, est mon invitée dans quelques instants. C'est elle qui est à l'origine de l'affaire du Mediator. Le tête-à-tête Europe Matin dans 3 minutes. Mais tout de suite, la Toucham, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je vous l'annonce ce matin, j'entre en résistance, j'en ai marre d'être un mouton.
A tout de suite sur Europe 1. 7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Nice ce week-end. Ils étaient 350 anti-masques, anti-restrictions, anti-pastilles, enfin je ne sais plus, anti-tout quoi. Un rassemblement covido-sceptique en faveur de la liberté. Clou du spectacle, la présence du rebelle. Il a les cheveux longs, il aime le cuir, mais non, je ne parle pourtant pas de Lorenzo Lamas, mais de l'autre rebelle, Francis Lalanne. Francis Lalanne qui a interprété ses plus grands succès, et passé ses 3 minutes 20, le chanteur a harangué la foule.
Je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, partagez. Voilà. Liberté, liberté.
Ouais. Eh ben dis donc, ça a changé les tournées Star 80. Hein. Avant, tu rentrais du concert avec une chanson dans la tête. Maintenant, tu repars potentiellement avec un tube dans la gorge. Sacré Francis. Alors, évidemment, les mauvaises langues dénigrent Francis Lalanne et son discours, ainsi que celui de ceux qui l'applaudissent. Mais ça, c'est parce que vous êtes endormi. Vous pouvez me donner l'heure, Mathieu ?
Oui, il est 7h40.
J'en étais sûr. Mais vous aussi, vous êtes soumis. Quel désastreux spectacle que celui qui nous a été offert ce week-end. Là, tous ces moutons qui ont avancé leur monde du nez. Et on avance. Parce que les médias et le pouvoir l'ont demandé. Et nos libertés dans tout ça. Jamais. Vous m'entendrez, jamais je me soumettrai à la dictature de l'heure d'été. Vous avez remarqué, à chaque fois, ils nous disent avancez vos montres, reculez vos montres, avancez, reculez. Et on le fait, nous. Nous sommes leurs pions. Les pions d'un jeu de société géant. Non, du jeu de la société. Note-la, Francis, elle est bonne, celle-là. Tout ceci n'existe pas, c'est une création des élites mondialistes. Parce que pendant qu'on règle nos mondes, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'esprit occupé. Donc, ils en profitent pour faire passer leur loi en douce. Ils nous font croire qu'on gagne du temps, mais on en perd en réalité. Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
Et puis, vous vous êtes déjà demandé ce que faisaient les dirigeants pendant 7 heures d'ensoleillement en plus? Non. Ben, c'est pas joli, joli. Hein, des sacrifices de tourterelles et des rituels pédalo-sabbatiques. Oui, je vous invite à lire Internet. Faites ce que vous voulez, mais moi, je suis un homme libre et c'est pas Macron qui me dira l'heure qu'il est. Non, mais oh, il s'est pris pour flic-flac ou quoi? Chez moi, quoi qu'en disent les médias, il est 6h41. Je devrais être encore au lit. Alors, si comme moi, vous en avez marre de tout ce cirque, je vous donne rendez-vous samedi, place de la République, pour un grand rassemblement anti-heure d'été en présence de Francis Lalanne et Bébert des Forbans. J'essaie d'avoir Peter Eslon aussi. Il y aura même des churros. Gagnons du temps pour ne plus en perdre. Liberté ! Rendez-vous à 14h. Enfin, 15h heure d'été. J'aimerais quand même avoir des caméras.
La Toucham, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand.
Avec plaisir.
Passez un bon week-end, je vois. Et à demain. Non, à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h42. Tromperie aggravée, escroquerie et homicide et blessures involontaires. 10 millions d'euros d'amende requis contre les laboratoires Servier, 200 000 euros contre l'Agence nationale de sécurité du médicament. Poursuivi pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator. Le jugement de cette affaire sera rendu aujourd'hui. Ce médicament qui a tué le Mediator antidiabétique, largement prescrit comme coupe-faim. Irène Frachon est pneumologue au CHU de Brest. Elle a lancé l'alerte. C'est elle qui est à l'origine de l'affaire du Mediator. Et c'est mon invité ce matin.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Irène Frachon.
Bonjour Mathieu Béliard.
Qu'attendez-vous du jugement aujourd'hui? C'est la fin d'un long processus.
Alors d'abord, ce jugement, on l'attend depuis des années, puisqu'il y a, le procès a été annoncé à partir de 2014 chaque année, et ça a été reculé du fait des manœuvres dilatoires de la défense du labo. Mes pensées iront d'abord aux victimes qui n'ont pas tenu jusqu'à aujourd'hui et qui sont décédées ces dernières années. Mais nous attendons pour ces victimes, pour leurs proches et pour les victimes survivantes, que l'on dise enfin les faits et la vérité face à un inébranlable mensonge énorme des laboratoires Servier. La deuxième chose, c'est qu'il faut qualifier ces faits. S'agit-il d'une simple erreur, oups, une petite boulette du laboratoire Servier, ou s'agit-il d'un affreux délit, c'est-à-dire de la mise sur le marché et surtout du maintien pendant des dizaines d'années d'un produit dont Servier savait parfaitement que c'était un poison mortel. Et puis troisièmement, il faut punir à la hauteur de la gravité de ces faits, car vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire du Mediator a profondément altéré la confiance du grand public envers l'industrie du médicament et envers la capacité des autorités de santé à discerner les bons, les mauvais médicaments.
Et ça a une résonance aujourd'hui, évidemment. On va en reparler, mais d'abord, vous le disiez, depuis 2014, 9 mois, 517 heures d'audience, 6500 parties civiles, 400 avocats. On dit que la lecture du jugement pourrait prendre 3 heures. C'est impressionnant que ce procès du Mediator.
En fait, je vais vous resituer. Le Mediator a été distribué à 5 millions de Français pendant 30 ans et 15% d'entre eux ont des séquelles, ou ont eu, parce qu'ils en sont pour beaucoup bien sûr plus là, des séquelles cardiaques, ce qui représente plus de 500 000 personnes. Donc c'est inimaginable. Voilà ce qui s'est passé. Donc ce sont des milliers de morts par valvulopathie, des centaines de morts par une maladie rare et gravissime qui s'appelle l'hypertension pulmonaire, des séquelles cardiaques lourdes pour des dizaines de milliers de grands invalides. C'est juste inimaginable.
Alors, qu'est-ce que ça aura changé? Est-ce que ce laboratoire a changé aujourd'hui? Est-ce que les leçons ont été tirées? On va rappeler qu'il produisait et distribuait le Mediator.
Le laboratoire n'a pas changé d'un iota. Ils sont inébranlables dans leurs mensonges. Pour vous donner un exemple de ce cynisme absolu, c'est le préjudice sexuel. Il faut savoir que 100% des hommes et des femmes qui ont été opérés à cœur ouvert ont perdu généralement leur compagnon, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Les femmes sont défigurées par une grande cicatrice, elles ont des douleurs, elles sont essoufflées. Et vous imaginez que tout ça ne porte pas à une vie épanouie, et notamment sur le plan intime. Eh bien, le laboratoire Servier exige des détails. Ce sont des victimes humiliées et profondément détruites qui éventuellement auront une indemnisation jetée avec un cynisme effroyable.
Cette affaire, qu'est-ce qu'elle aura changé, Irène Frachon, concrètement dans le processus de contrôle du médicament, dans les pratiques de l'industrie? Quels sont les acquis?
Tout le monde a compris que tous les moyens ont été bons pour le laboratoire Servier pour maintenir coûte que coûte ces poisons sur le marché, y compris de l'intimidation, des méthodes de barbouze, des pressions. Et donc, malheureusement, l'agence est jugée parce qu'elle a été faible, parce qu'elle a cédé, et pas parce qu'elle est incompétente.
Est-ce qu'une autre affaire du Mediator est possible aujourd'hui ?
Ce procès va clarifier un petit peu les enjeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ce qui relève de la pharmacovigilance, par exemple, et ce qui relève de la pharmacodélinquance. Le problème du Mediator n'est pas un problème de difficulté à identifier un signal, c'est que ce signal a été dissimulé.
Aujourd'hui, on l'évoquait, il y a une crise de confiance entre les Français et leur système de santé d'une manière générale.
Depuis 10 ans, inutile de vous dire que ça perturbe tout le monde et que ça n'est pas bon pour la confiance. Les victimes ont très bien raconté au procès qu'elles n'osent plus avaler le moindre médicament. Elles sont complètement effarées de voir que le laboratoire Servier a toujours pignon sur rue et toujours accueilli à l'Académie de médecine par des sociétés savantes, nous des partenariats avec l'école polytechnique et que sais-je encore. Les autorités de santé se sont quand même largement réformées par rapport à leur faiblesse de ces périodes-là, mais il faut aussi que le monde médical, qui est encore massivement arrosé par l'argent de Servier, lui aussi apprenne et sache mettre à l'écart ce laboratoire en disant « ben non, vous avez trompé les gens, vous les avez empoisonnés ». Or, depuis que l'affaire du Mediator a éclaté, pour Servier, c'est open bar, c'est business as usual. Si notre monde de la santé peut continuer à dealer avec des labos délinquants, ben on ne peut plus croire personne. C'est ça l'enjeu.
Je voyais, Irène Frachon, que vous dites qu'il ne faut pas confondre la catastrophe inattendue qu'est la pandémie de Covid et le crime, l'acte délibéré qui est jugé dans cette affaire du Mediator.
Très clairement, oui. L'affaire du Mediator, moi j'appelle ça au choix un bombardement, un attentat sanitaire. Enfin voilà, ça relève d'un acte délibéré. Dans le drame qui nous accable avec cette terrible pandémie, ben on est en effet un peu dans les sept plaies d'Égypte. Hein, c'est le cataclysme qui s'abat sur nous. Il est possible que les très gros bouleversements de la biodiversité et que des phénomènes liés à notre activité, notre mondialisation, aient aggravé cette pandémie. Mais en réalité, il y a quand même une part de fléaux qui nous tombent dessus. Nous mobilisons des connaissances scientifiques. On attend énormément des vaccins, bien évidemment. Mais il faut que tout ça se déroule en parlant de vraie science et bien évidemment en évacuant le mensonge et la manipulation. Sinon, on n'avance pas.
Il n'y a pas vraiment de quoi être rassuré quand on vous entend sur le laboratoire Servier.
Le problème, il est au niveau, bien évidemment, des patrons qui n'ont pas changé depuis le début de l'affaire. Ce sont les mêmes. Il n'y a eu aucune remise en cause.
Que peut la puissance publique contre ce fonctionnement aujourd'hui ?
Il faut taper fort. Moi, j'ai déjà dit, un abattoir qui maltraite ses bêtes, il est fermé le lendemain quand même. Enfin, on a quand même des moyens de stopper ou de mettre sous contrôle ou sous tutelle une entreprise dont la direction est totalement hors des clous.
On a des leviers, vous dites. C'est le plus important. On a déjà des leviers.
Oui. Et donc, il faut qu'on les utilise sans coup férir et sans trembler.
Merci beaucoup Irène Frachon.
Je vous en prie.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h49 sur Europe 1, la lanceuse d'alerte Irène Frachon, cette affaire du Mediator, elle était notre invitée ce matin. L'édito politique Nicolas Bétou, c'est dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à tous. L'édito politique de Nicolas Bétou, bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ce sera à coup sûr le sujet de la semaine dans la lutte contre le Covid. Faut-il ou non fermer les écoles ?
Voilà un débat qui monte à la vitesse où se propage le variant anglais, c'est-à-dire très rapidement. On connaît la position du gouvernement. Depuis le premier déconfinement, elle n'a pas changé. L'école, dit Jean-Michel Blanquer, c'est ce qu'on doit fermer en dernier. Et ce week-end, Emmanuel Macron a confié au journal du dimanche qu'il faisait tout pour renforcer les protocoles sanitaires afin de maintenir les écoles ouvertes.
Oui, ce qui ne l'a pas empêché de dire dans le même entretien que la fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou.
Mais, ajoutait-il dans la foulée, cette fermeture doit demeurer un dernier recours. Bon, ce balancement entre non mais et oui peut-être est typique de l'incertitude générale sur le rôle effectif de l'école dans le déferlement d'une troisième vague. Comme sur à peu près tous les points, la communauté scientifique a varié de position depuis le début de l'épidémie il y a un an. Et lorsque Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, demande la fermeture des classes jusqu'aux vacances de Pâques, dans 15 jours donc, elle s'entend répondre par le ministre de l'Éducation que l'école n'est pas la mère de tous les maux.
Donc ça ne changera pas de fermeture anticipée ?
Alors c'est pas sûr, non. Vous avez d'un côté la détermination du gouvernement qui s'appuie sur un argument social. Fermer les écoles, c'est risquer de creuser les inégalités, ce qui est vrai. Mais il y a un autre argument qu'il n'utilise jamais, celui-là. La fermeture des écoles, ça met l'économie à l'arrêt. Dans un pays où, beaucoup plus qu'en Allemagne par exemple, les deux parents travaillent, école fermée égale parents bloqués. Et c'est encore plus vrai pour les familles monoparentales, bien sûr. En tout cas, ça fait deux très bonnes raisons pour tenir.
Donc, détermination totale du gouvernement d'un côté et de l'autre ?
De l'autre, la montée en puissance du virus, bien sûr, ainsi que la pression des enseignants qui, malgré ce que promet Emmanuel Macron, ne pourront pas être vaccinés d'ici la fin du mois prochain. Voilà, à chaque semaine son défi, il y a 15 jours le reconfinement régional, la semaine dernière les vaccinodromes, cette fois c'est l'école, avec à la clé un pari, un nouveau pari du chef de l'État. On connaît celui qu'il a tenté fin janvier en refusant de confiner le pays une troisième fois, vous avez peut-être aimé ce choix, très critiqué aujourd'hui, mais qui ne provoque chez lui aucun mea culpa, aucun remords, aucun constat d'échec. Et bien vous aimerez peut-être le pari de l'école, avec là aussi une position à peu près unique, si on se compare aux autres pays, un pari qu'il a maintenant 15 jours pour réussir.
Votre édito, c'est tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Et c'est François Hollande qui est venu lui dire un petit mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard.
Bonjour.
Monsieur Bétou.
Monsieur le Président.
Je suis passé, comme j'ai un emploi du temps assez calme depuis 4 ans, j'ai pris le temps. J'apprécie beaucoup Manuel Valls. Il a été un Premier ministre, disons-le, dynamique. Il faut dire qu'il passait après Jean-Marc Ayrault, donc tout est relatif. Vous l'avez vu, constaté, c'est tellement. Manuel Valls revient, Laurent Wauquiez revient. On dit que la mode, et c'est un perpétuel recommencement. Mmh. La politique aussi, visiblement. Oui. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai envie de repointer le bout de mon bide.
Oh.
Et je dois... Oui, pardon. Je sais. Oui, non. Je sais que l'expression c'est le bout de mon nez, mais il se trouve que mon bide arrive souvent avant. Voilà. Je sais que Manuel Valls a des détracteurs. Vous savez, qui le surnomme le boomerang franco-espagnol. Plus tu le balances fort, plus il revient vite. Mais il a bien choisi sa semaine pour revenir, hein, Manuel Valls. Ouais. Tous les Français se barrent en vacances en Espagne, où tout est ouvert, et lui revient en France au moment où tout est fermé. Vous l'aurez noté, un grand sens du timing de mon Manu. Mais quelque part, positivement, ça prouve qu'il nous aime.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours avant 8h. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Manuel Valls au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Et Nicolas Canteloup, on le retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de presse sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h58 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Avec du beau temps pour nous tous, bon, rien à dire en ce qui concerne la couleur du ciel. Les températures ce matin sont froides pour certains d'entre nous, dégelées entre 0 et 5-6 degrés, pas plus, hein, 5 à Lyon, 7 à Paris quand même. Et des températures l'après-midi qui sont assez curieuses. Pourquoi ? Parce que les températures les plus fraîches se situent dans le sud-est, Marseille, Bastia, Toulon, Nice. Les températures de 17 à 18, c'est là qu'il fait le plus frais. Ensuite, vous avez du 21 à Caen, du 22 à Lyon et Paris, du 22 à Nantes, 23 à Tours, Nevers. Et puis dans le sud-ouest, c'est-à-dire pratiquement au même endroit, enfin au même latitude que les régions du sud-est, eh bien nous avons à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, non à Bordeaux, à Dax et Bayonne, des valeurs de 24 à 26 degrés. Pourquoi ? Parce que d'un côté, côté Nice, il y a le vent de la mer qui vient rafraîchir l'atmosphère. Et puis côté Dax, Bayonne, Auch et Pau, eh bien là nous avons le vent qui vient d'Espagne, qui franchit les Pyrénées, qui en descendant de l'autre côté des Pyrénées se comprime, donc il se réchauffe. Et en se réchauffant, il devient plus élevé, donc les températures sont plus élevés dans cette partie de la France. Voilà, c'est tout simplement l'explication de ce qui se passe. On appelle ça un effet de fun. C'est la météo de la pompe à bicyclette. Vous savez, quand vous pompez, ben vous avez le corps de la pompe qui chauffe. Et bien, c'est pour ça. Voilà, c'est là exactement la même chose.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.